j'aimerais vous résumer brièvement. D'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être ici, particulièrement en cette occasion toute particulière. Et je suis le premier à prêcher dans cette église officiellement inaugurée, après que le ruban ait été coupé. Je pensais que j'allais couper la cravate du président tantôt, ça va être intéressant. J'aimerais donc vous synthétiser mon CV, Raymond Perron, simple mortel. Sauvé par grâce. Amen. C'est ce que nous... Est-ce qu'on peut péter ça un peu? Je l'ai dans l'œil. Est-ce que c'est pour l'œil ou pour la bouche? J'ai vu avec grande anticipation qu'il y avait de l'eau derrière, mais il n'y en a pas devant. Il faut très civiliser.
Il
n'y
a pas de problème. Il n'y a pas servi.
Merci beaucoup. L'eau bénite. Écoutez, c'est vraiment bon d'être ici pour bien des raisons, mais parce que je vous ai connu avant de vous connaître. C'est pas pire, ça, hein? Je vous ai connu lorsque j'étais jeune chrétien, j'étais dans l'église baptiste évangélique de Marieville à l'époque, j'étais dans l'Union, et je pense que vous étiez dans la même Union. En tout cas, on parlait souvent de vous autres et on priait pour vous autres. Vous étiez à ce moment-là dans une autre congrégation, avant de devenir deux congrégations, et on priait déjà pour vous autres à ce moment-là. Alors, ça fait déjà un petit moment qu'on vous connaît, et j'ai eu le privilège aussi, à l'occasion, de venir prêcher dans votre église, lorsque vous étiez là-bas, dans la salle précédente. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour votre persévérance, pour votre résilience. Oui, vous avez été persévérant et résilient, mais c'est la grâce de Dieu qui était derrière tout cela. Vous avez passé des saisons extrêmement difficiles, on en est bien conscient. Et malgré tout, l'Assemblée a persévéré. Vous savez, quand le Christ dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église, ça ne s'applique pas nécessairement à l'Église locale, mais en même temps, il y a une ramification là-dedans. L'Église du Christ Jésus, celle qui est composée des vrais sauvés, elle est indestructible. Alors, je lève mon chapeau devant cette résilience, devant cette grâce du Seigneur qui s'est manifestée parmi vous. Et quel bel accomplissement, voyons-nous maintenant, aujourd'hui. Dans une circonstance comme celle-là, quel est le sujet qui s'impose? On inaugure une église. Quel est le sujet qui s'impose? De quoi est-ce qu'on devrait parler? De bâtir une église! Monsieur Petit Clair, venez de passer le test. Hein? On va vous ordonner. Effectivement, on va parler de l'église. L'église, c'est communautaire. Ça va de soi. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vivre en communauté? Parce que nous sommes des êtres sociaux. Si nous étions des animaux, on dirait qu'on est grégaires, hein, mais ça s'applique principalement aux animaux. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres avec. Et pourquoi est-ce que nous sommes des êtres avec? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et que Dieu est un être avec. Dieu est un être social dans son concile intra-trinitaire. Vous savez, c'est toute la différence entre le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, et le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans, c'est un Dieu moniste. C'est un Dieu tout seul dans son raccoin, qui s'aime lui-même tout seul. Il n'y a personne d'autre aimé, il est tout seul. Vous voyez? Il ne peut pas exprimer les vertus que le Dieu de la Bible exprime dans son concile extra-trinitaire. Comment est-ce qu'il peut aimer l'autre qui est tout seul? Nous, éternellement, n'est-ce pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit expriment cet amour, ces vertus relationnelles qui nous a été conféré en tant qu'être à son image, en tant qu'être social. Alors, on a beau crier « Allah Akbar », vous savez, mais la vraie grandeur, c'est celle du Dieu trine de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. L'individualisme qu'on voit présentement là, en Amérique du Nord, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, vous savez. C'est une déformation de notre humanité. Cette espèce d'individualisme-là, où chacun prétend être en communion avec la planète parce qu'il est devant son écran d'ordinateur, ou devant son téléphone, son iPhone, son Android, ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, d'où vient le mot « ermite » Vous savez, c'est quoi un ermite? Quelqu'un qui vit tout seul. Hein? Le mot « ermite » vient du grec « eremos », qui veut dire « désert ». Alors, ceux qui prétendent être chrétiens et qui sont toujours à l'écart, qui veulent vivre seuls, ont des vies désertiques, pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de floraison dans leur jardin spirituel, n'est-ce pas? Parce que c'est en communauté qu'on grandit, c'est en communauté qu'on s'exhorte ensemble et qu'on persévère, comme vous l'avez si bien fait, au fil des ans. Plusieurs lisent la Bible en ne pensant qu'en termes de leur salut individuel. Ils cherchent leur petite affaire eux autres et de leur relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas la façon d'approcher la parole de Dieu parce que c'est un document, c'est une révélation qui a été écrite pour la communauté de l'Alliance. Amen.
Amen.
Excellent. Merci, Martial. Je commence à être inquiet. Pour qu'un projet d'Église subsiste, vous savez, il est de première importance de s'assurer d'avoir une vision commune d'abord. C'est pour ça que nous avons une confession de foi. Hein? Savoir ce qu'on comprend, puis comment on le comprend et où on se dirige. Et en amorce d'un projet d'Église important, donc, on se pose la question, qu'est-ce que l'Église? Je nous invite à nous la poser, cette question-là, aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Mon épouse Diane, il y a quelque temps, lisait un bouquin très intéressant, et elle m'a cité quelques phrases qu'elle a lues dans ce bouquin-là, et je les ai trouvées tellement pelles, ces paroles-là, qu'à son insu, finalement, je les ai copiées et je les ai traduites. Alors, c'est une citation de Richard Halverson, qui est un ancien aumônier au Sénat américain. Voici ce qu'il dit lorsqu'il pose le diagnostic sur l'Église d'Occident, l'Amérique du Nord. « Au commencement, l'Église était une fraternité d'hommes et de femmes centrée sur le Christ vivant. Puis, l'Église est déménagée en Grèce et elle est devenue une philosophie. Ensuite, elle est déménagée à Rome. » Et elle est devenue une institution. Et alors, elle est déménagée en Amérique et elle est devenue une entreprise, une business. C'est quand même très bien dit. Parce qu'effectivement, c'est le danger qui menace l'Église de ces différentes phases-là. Alors, qu'est-ce que l'Église? Il existe une grande confusion quant à la nature de l'Église. Pour certains, c'est un club social. Certains vont vous dire, « Ah, l'Église, ah oui, je suis pour l'Église, j'y vais. » Quand j'en ressens le besoin. Il semble qu'il n'en ressente pas le besoin souvent, mais en plusieurs vont dire ça. Quand j'en ressens le besoin, je vais à l'église. Pour d'autres, c'est un lieu de divertissement, un club social, un produit de consommation. Je vais m'y marier, je me fais enterrer, une fois par année, de temps en temps, un baptême à l'occasion. C'est un service à la population et rien de plus. Vous savez, toutes ces conceptions-là sont ultra fausses. Toutes ces mauvaises conceptions-là de l'Église ont donné naissance, effectivement, à ce que nous appelons les nouveaux modèles d'Église, qui ne sont pas, hélas, bien souvent de fois, des Églises. On tombe dans le jésuitisme, ça vient du mot jésuite, hein, la fin justifie les moyens. Alors, qu'est-ce que l'Église? Comment allons-nous déterminer qui va nous dire, avec autorité, qu'est-ce que l'Église? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas le déterminé parce que Dieu l'a fait pour nous autres avant. Et je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Timothée, de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Je sais, Martial, que j'ai parlé de 40 minutes, je suis très mal parti. On peut peut-être aller à 41. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Paul, donc, l'apôtre Paul, Saint Paul, si vous voulez, qui a écrit à Saint Timothée. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, la première parole qui nous apparaît dans le texte, c'est que l'Église de Dieu, c'est une maison. C'est la maison du Dieu vivant. Le mot oikos qu'on retrouve dans le grec, si vous en voulez un petit peu plus là. Ça fait référence à une espèce de bâtiment, d'abord une maison. Nous retrouvons effectivement dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'apôtre Pierre, de reprendre 1 Pierre 2,5 « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituel, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, hein, par Jésus-Christ. Alors, on voit que c'est une maison, mais ce n'est pas uniquement un bâtiment, parce que c'est fait de pierres spirituelles. Alors, on devrait mieux traduire par une maisonnée, ceux qui habitent la maison. C'est la famille qui habite la maison. 1 Timothée, chapitre 3, versets 4, 5 et 12, parle à la fois d'église rassemblée et d'église dispersée. L'église, ce n'est pas uniquement le dimanche matin à 10 heures, quand tout le monde est là, mais il y en a qui c'est à 10h10, elle peut être dispersée ou rassemblée, ça demeure quand même la maisonnée. Comme une famille peut être rassemblée ou dispersée, elle demeure une famille. Éphésiens chapitre 2, verset 19-22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous savez d'où vient le mot paroisse au passage? C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans nos milieux, mais c'est un très très beau mot, le mot paroisse. Ça vient de deux mots grecs, para oikos, on a le mot maison dedans. Para oikos, oikos, c'est le mot maison en grec, qui veut dire demeure temporaire, notre maisonnée temporaire. Effectivement, nos paroisses, nos églises locales sont des institutions temporaires jusqu'à ce qu'on joigne notre Seigneur dans la gloire à venir. Donc, on peut déjà conclure ceci. La nature de l'église, c'est d'être une maisonnée. Une maisonnée qui est tantôt rassemblée, une maisonnée qui est tantôt dispersée. Et c'est la maisonnée du Dieu vivant. C'est là où Dieu habite, au milieu de son peuple, un peuple, il va s'en dire, privilégié. Il y a déjà une interpellation ici, ça nous parle d'appartenance. Quand on appartient à une famille, on appartient par définition. On n'est plus des agents libres. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit à Timothée, « Je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la famille, dans la maisonnée de Dieu. » On n'est plus des gens qui faisons ce qu'ils voulons, qui sommes des agents libres, donc. Comment il faut se conduire corrige déjà des fausses conceptions. Je ne suis pas d'accord, je fous tout en l'air et je m'en vais. Je balance tout en l'air et je m'en vais. Je claque la porte et je cherche ce qui me convient. Déjà là, ça vient d'être expulsé du discours, ça. Comment est-ce qu'on devient membre d'une famille? Bon, bien sûr, on peut devenir membre d'une famille par naissance ou par adoption. C'est notre cas à nous qui sommes croyants, tous les croyants, tous ceux qui sont nés de nouveau. On devient membre de la maisonnée de Dieu par nouvelle naissance et en plus, nous avons été adoptés. Alors, on est doublement enfant de Dieu, pour ainsi dire. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 8, se lit comme suit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, ça veut comme dire « destinés avant », dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, bonjour mon frère, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes d'espèces d'intelligence. Alors nous sommes devenus des frères et des sœurs. On se reconnaît effectivement par notre esprit commun, l'esprit de Dieu qui nous habite. On a une belle image également de ce que nous sommes dans Éphésiens 2:19. Il nous dit que nous sommes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu, de la oikos, voyez-vous, c'est le même mot qui revient encore, des gens de la maisonnée de Dieu. Donc, grâce que Dieu nous fait, bien sûr, d'appartenir à sa maison, d'appartenir à sa maisonnée. Trop souvent, parfois, les chrétiens donnent l'impression qu'ils font une faveur à Dieu de se joindre à sa maisonnée. C'est une grâce énorme qui nous est faite. C'est un grand privilège que d'appartenir à une église, vous savez. Au même titre que ne sortaient pas d'Égypte qui voulaient, mais seulement ceux qui étaient fils, hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, au même titre, ceux qui sont appelés à appartenir à une église, c'est un grand privilège que Dieu leur fait. C'est toute une grâce que de ne pas être laissé pour compte, que de ne pas être tabletté, mais que d'appartenir à une famille, alors qu'on marche ensemble, on s'encourage, on s'entrépaule et on se dirige vers notre demeure sainte, vers notre demeure éternelle. Vous savez, comme je dis souvent, essayer de croître en Christ hors de l'Église, c'est comme essayer d'apprendre à nager sans aller à la piscine. Vous êtes là sur votre moquette de tapis, là, puis vous faites tous les mouvements possibles, mais une fois que vous arrivez dans l'eau, vous risquez un baptême imprévu, et pas nécessairement désiré. Alors donc, appartenir au Christ concrètement, c'est appartenir à l'Église. Ça va de soi? C'est son corps. Christ n'est pas démembré, c'est son corps. Appartenir au Christ, c'est appartenir à l'Église. Vous savez, on a toutes sortes de grands concepts mystiques, mais il faut que ça touche à terre, ça. Et Dieu, dans sa miséricorde, sait de quoi nous sommes faits. Et tout ce qui est, vous savez, quand il dit à Moïse, là, assure-toi de faire sur terre exactement selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Ben, Dieu reproduit un peu sur terre ce qu'il y a au ciel. Quand on parle d'Église universelle, on parle de quoi? Pour nous, on parle de rien, somme toute, de manière tangible. L'Église universelle, elle a une manifestation visible parce que nous sommes encore des êtres visibles, des êtres sensuels. La manifestation de l'Église universelle, ce n'est rien d'autre que l'Église locale. Quand nous parlons que nous sommes ensemble, frères et sœurs, gardés en Christ la tête, on le manifeste par la communion, hein, par un des deux sacrements ou des deux ordonnances, s'il vous plaît. Hein. Et effectivement, quand on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, il est où cet esprit que je vais me faire plonger dedans? Hein? Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'opère d'une manière mystique, mais quel est son symbolique, son symbolisme, quelle est sa manifestation visible? C'est le baptême d'eau. Tout ce qu'il y a, toutes les réalités finalement célestes ont une manifestation terrestre afin que nous puissions effectivement les mieux saisir. Je me souviens, j'ai fait cette citation-là la première fois que mon frère Marcel Longchamp s'est présenté à l'Église de Québec. Et on se demandait, pasteur Jacques et moi, comment il allait l'avaler. L'Église doit être comme une mère spirituelle tout le temps de notre pèlerinage chrétien. Luther de dire, on ne peut avoir Dieu pour père sans avoir l'Église pour mère. Amen!
Amen.
Alléluia! Winmack. Vous connaissez Winmack, peut-être il a écrit un excellent bouquin sur le mariage, entre autres, dont on sert pour suivre les gens là, qui se préparent à se marier. Winmack de dire, parce que c'est maintenant notre intention de discuter de l'Église visible, apprenons de ce simple titre, mère, à quel point il nous est utile, voire nécessaire de la connaître. Il est en effet impossible d'entrer dans la vie sans que cette mère nous ait conçus dans son sein, donné naissance, nourrie à son sein et sans qu'elle nous garde sous ses soins et directions jusqu'à ce que, quittant ce corps mortel, nous devenions comme les anges. Souvenez-vous de la conversion de l'apôtre Paul? Si vous avez déjà lu dans le livre des Actes, la conversion extraordinaire de l'apôtre Paul, on relit ça toujours avec une joie extraordinaire, on voit la puissance de Dieu et on voit que le salut vient de Dieu. La justification, c'est unilatéral, hein? C'est Dieu seul qui s'implique. Et on voit donc Paul qui effectivement tombe de son cheval, n'est-ce pas, et il est complètement knocké, hein, il est au sol et il ne peut plus rien faire. D'ailleurs, le Seigneur lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? De dire l'apôtre Paul. Il ne discutait plus, là, le pharisien vient de mourir pour un petit bout de temps. Là, il était vraiment, vraiment vulnérable, fragile. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur aurait très bien pu dire, mais écoute, le moment est très bien choisi, tu sembles très attentif, je vais effectivement te communiquer ta mission. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va dans l'église et on va te dire quoi faire. Va dans la rue qu'on appelle la gauche, il l'a envoyé vers Ananias, l'église de l'époque. Et c'est là où les écailles lui sont tombées des yeux, n'est-ce pas? L'église lui a de plus en plus clarifié sa vision, l'a baptisé et éventuellement, bon, à partir d'Antioche, c'est là où il est parti en mission, vous voyez. Va dans l'Église. Je bâtirai mon Église. J'en parlais avec pasteur Jacques à mon temps, c'est un de mes passages favoris. Je bâtirai mon Église. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez acheté le bâtiment ici, puis vous avez dit, on va bâtir notre Église, ce n'était pas tout à fait assuré, ça aurait pu y avorter. Mais avec le Christ, c'est impossible que ça manque, parce que ce n'était pas futur. Vous voyez? Dans le grec, il y a des subtilités. Je bâtirai mon église. Le verbe n'est pas au futur, il est au volitif. C'est un temps qu'on n'a pas en français. C'est un décret divin. C'est une décision de Dieu. L'église va prendre place et rien ni personne n'y pourra quoi que ce soit. Écoutez, on n'a qu'à regarder l'histoire de l'église avec toutes les attaques qu'elle a pu traverser. Et elle est encore très solide aujourd'hui, vous savez. Elle sera encore très solide demain. Et elle va triompher. Nous sommes, pour employer une expression de notre ancienne religion, dans l'église militante. Mais on ne manquera pas d'être aussi dans l'église triomphante. Et ça m'amène à mon deuxième point, la mission de l'église. La mission de l'église, elle nous est donnée dans les deux termes qu'il a décrits. Alors, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. » Mais c'est quoi la maison de Dieu? Qui est l'église du Dieu vivant? La colonne et l'appui de la vérité. Pas des bons mots, ça? L'appui de la vérité. Et draioma, le mot grec. Qui veut dire une fondation, ce qui tient en place, ce qui stabilise. Fondée sur la parole et gardienne de cette même parole. Elle a une responsabilité, l'Église, face à la parole, mais elle n'a pas autorité sur la parole. Elle est fondée sur cette parole-là et elle est gardienne de cette parole-là. L'autre mot, c'est « stoulos », traduit par « colonne ». C'est quoi le rôle d'une colonne? Quand vous mettez quelque chose sur une colonne, c'est pour l'exposer, hein? Ça pousse vers le haut. Ben, c'est précisément le rôle de l'Église. C'est de pousser la personne majestueuse du Christ et de la bonne nouvelle de son royaume vers le haut, comme on vient si bien de chanter « Jésus te confie hein? ». Une œuvre d'amour va vers la jeunesse, va vers ce monde qui se perd. Alors, l'Église, elle est fondée pour sa vie, pour sa santé-là. Elle est fondée et en même temps, elle est le fondement. Sa mission, hein? Elle est le fondement de la vérité. L'Église dépend de la vérité pour son existence. La vérité dépend de l'Église pour sa défense et sa proclamation. Paul décrit donc l'Église en relation avec la vérité. Appui et colonne de la vérité. Ce n'est pas l'appui et la colonne d'une vérité. Mais c'est la, ça nous rappelle quoi, ça? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? En postmodernité, maintenant, on dit, la vérité est multiple. Pff, oxymore, hein? C'est une contradiction entre des termes. La vérité n'est pas multiple, elle est unique. Et c'est Christ Jésus. Et c'est une personne qui plus est. Une personne qui s'est révélée. Une personne qui s'est révélée en chair, une personne qui s'est révélée ici, en livre, dans la révélation qui nous a été léguée. Et ça change toute la donne, vous savez. Le monde a toujours eu tendance à ignorer les événements les plus importants de son histoire en raison de son aveuglement. Parce que le monde a beau avoir toutes sortes d'électronique, n'est-ce pas, on n'arrête pas, hein, les avancées scientifiques et tout, informatiques, mais le monde est aussi aveugle qu'il était, peut-être pire qu'avant même, parce que il croit voir, pour reprendre des propos de Jésus aux pharisiens. Le monde va concentrer sur les grands changements politiques. Il concentre uniquement sur la surface. D'ailleurs, les traitements que le monde applique, c'est toujours des traitements de surface. C'est toujours des cataplasmes sur des jambes de bois. Hein, ça ne va jamais vraiment là où est le véritable mal. Mais les événements charnières lui échappent. Si vous êtes familier avec l'Écriture sainte. Hein? Lorsque les gens voyaient les Israélites au désert avec leur tabernacle, rien pour éternuer, comme on dit en anglais, hein? Rien d'extraordinaire là, n'est-ce pas? Une gang de Juifs en camping, somme toute. Et pourtant, il y avait quelque chose d'extraordinaire là. Effectivement, au milieu même de ce camping-là, il y avait le Dieu vivant qui avait logé sa présence sur terre, précisément au milieu de ce peuple-là, qu'il voyait. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière, de dire le psalmiste, n'est-ce pas? La naissance de Jésus. Quel médium, devrait-il dire enfin, au singulier, a délégué des journalistes, des reporters, pour dire, allez couvrir cet événement-là, là. Un bébé qui vit au monde dans un caravansérail, d'un autre, même pas dans la chambre, mais dans le parking, littéralement, parce qu'il était dans la mangeoire où on stationnait les animaux. Est-ce que c'était grandiose? Non. Dieu fonctionne comme ça. C'est extraordinaire, hein? C'est il y a quelques semaines à Saint-Jérôme, je parlais également, dans Apocalypse chapitre 5, vous souvenez-vous, lorsque Jean pleure parce que là, il n'y a personne qui peut ouvrir les seaux. Hein? Puis on sait que les sceaux sont les décrets divins. Et on sait qu'ouvrir les sceaux, ce n'est pas uniquement révéler ce qui va arriver, ce n'est pas l'horoscope du jour. Là. C'était l'accomplissement littéralement des desseins de Dieu. Et Jean pleure, passez-moi l'expression, branle comme une madeleine, hein? Parce que personne n'est digne d'ouvrir les sceaux. Et l'ange lui dit, non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a triomphé et il est digne d'ouvrir les sceaux. Mais ce qui est fascinant, c'est que le verset d'après, quand Jean voit ce lion de la tribu de Juda arriver, il lui dit, « Et je vis là comme un agneau immolé. » C'est comme ça que Dieu travaille. Travaille pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas un Dieu de néon. Ce n'est pas un Dieu de tape à l'œil. C'est un Dieu de puissance. Élie! Élie dans son désert, hein, lorsque Dieu le visite. Tremblement de terre, un vent qui fend les rochers et les montagnes. Mais quand c'est arrivé aux oreilles d'Élie, qu'est-ce qu'il y avait? Un doux murmure. Tout ce qu'on considère comme puissant, nous, comme impressionnant, c'est banal. Un simple murmure divin fait infiniment plus de travail. Un simple agneau immolé fait infiniment plus de travail. Il y a beaucoup plus de puissance là-dedans que dans toutes les puissances du monde réunies. L'implantation ou l'établissement d'une église. Je ne sais pas jusqu'où Nantes et la Frange et la région est en liesse aujourd'hui parce que vous inaugurez votre église. Mais c'est un événement extraordinaire qui se passe aujourd'hui. Aux yeux du monde, de quoi est-ce qu'on a l'air cet après-midi? Je vais dire un groupuscule, mais là c'est plus gros qu'un groupuscule, c'est plein. Hein? Un groupe, une phalangine de personnes qui s'assemblent autour d'un livre, dans un lieu comme celui-ci, rien pour écrire à sa mère. Et pourtant, la réalité est la suivante. Nous formons l'Église réformée baptiste de Nantes. En apparence bien insignifiante, mais pourtant porteuse de tant de promesses, parce qu'elle n'est rien de moins qu'une station de la vérité. On ne réalise pas toujours cela. Hein? L'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Une Église du Christ, une Église fondée sur sa parole, sur sa révélation, c'est une station de la vérité. La vérité révélée de Dieu dans un monde postmoderne, un mal de vérité qui est en train de se noyer dans ses pilules, un mal d'absolu en recherche de ses repères perdus. Donc, double mission de l'Église, eu égard à la vérité. S'établir et la déçue, la garder hein, et la proclamer. Et il y a une grande interpellation pour l'Église là-dessus, de toujours revenir à la vérité, toujours revenir à la parole. Et nous vivons dans un temps de déclin, je ne prendrai rien à ce niveau-là. Quelle est la tendance de l'Église en temps de déclin? On tend à vouloir divertir. On tend à vouloir... faudrait faire des choses pour attirer le monde. Personne ne vient à lui, au Christ, si le Dieu, hein? Dieu qui ne l'attire, n'est-ce pas? Si la vérité n'attire pas, là, il n'y a rien qui va attirer. Ou si c'est attiré par autre chose, la vérité, on vient de manquer le bateau de plusieurs kilomètres. On n'accommode pas la vérité à nos caprices. On se soumet à la vérité. On se soumet ou on s'oppose à la vérité. Il n'y a pas de neutralité face à la vérité. Vous savez, même l'Église, comme je dis souvent, peut être tentée de prêcher des vérités sans caféine, des vérités qui ne réveillent pas. Pour ne pas déranger les gens, pour ne pas qu'ils se retirent, pour ne pas qu'ils soient offensés, ça va créer du trouble, ça va faire des vagues. Non, il faut une caféine très forte. Il faut des expressos bibliques. Bien sûr, on pourrait prêcher des vérités en tablette, en caplette, pour que ça s'avale mieux, les enrobés de chocolat, ça s'avalerait encore un petit peu mieux. Mais la vérité ne veut pas de cela. La vérité se veut être, pure, non pas diluée. La vérité peut parfois être amère, vous savez, au palais du pécheur. La vérité peut parfois s'avaler en mouton. L'apôtre donc nous présente ici le premier manuel pastoral. Il définit l'Église en termes de colonne et appui de la vérité. Quand on cherche une Église, est-ce que la vérité est toujours le critère? Je me souviens, à Québec, hein, James, tu vas te souvenir, On a un bonhomme de Radio-Canada qui vient nous visiter. Je l'avais rencontré. Enfin, il avait écouté la radio. Il avait été très, très touché. Et il m'avait téléphoné. Et on s'était rencontré dans un restaurant. Et je l'avais invité à l'église. Et quand il est entré à l'église, il était complètement déchanté. Il regardait tout le tour. Vous savez, nous, on n'a pas de chemin de croix. Les vitraux sont plutôt rares. C'est pas ça l'église pour nous. Et il avait été extrêmement déçu, on n'a pas vu. Quand on cherche une église, qu'est-ce qu'on cherche premièrement? Est-ce qu'on est en recherche de la vérité? Est-ce que c'est le premier critère? Ou si on cherche la chaleur humaine, le style de musique, les autres programmes, etc., etc. Hein, d'autres cherchent... ça, il y en a beaucoup comme cela. Un ministère de contrôle. J'aimerais avoir un ministère pour pouvoir contrôler, avoir une autorité dans l'Église. Vous connaissez ça peut-être, hein? On en voit dans toutes les Églises, des gens comme cela. Et s'ils n'ont pas le contrôle, ils ruent d'un brancard, vous savez. Et dans la parabole du semeur, Jésus nous dit, un semeur sorti pour ensemencer son champ, il met du blé. Mais son ennemi vint et sema de l'ivraie. Savez-vous c'est quoi le mot ivraie en grec? Écoutez bien, zizanion, ça donne en français zizanie. Alors quand vous voyez des gens qui viennent puis qui sèment la zizanie, vous savez d'où ça vient. Ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas du Seigneur. Alors il y a des gens comme ça, donc, pour toutes sortes de raisons, qui se cherchent effectivement une église. Mais l'Église devrait être recherchée premièrement en fonction de la vérité qui y est prêchée. Je dis souvent à nos gens qui veulent joindre une de nos Églises, nous sommes l'Église des trois P, petit, pauvre et plate. Hein, aux yeux du monde, c'est vrai, c'est assez rare qu'on ait des cathédrales de quelques milliers de personnes. On est toujours cassé, on manque toujours de fonds pour faire ce qu'on voudrait faire. Puis on est plate au niveau du monde, on n'a pas de programme, on ne danse pas à claquettes, la musique est plutôt plus absente qu'avec quelqu'un. Bon. Alors, les gens ne recherchent pas toujours l'enseignement. Quel est le message de l'Église? C'est toute l'histoire de la rédemption. Que la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus est venue réaliser, accomplir, incarner. Quel privilège et en même temps, quelle responsabilité. L'Église n'est pas là pour... Je vais là à l'Église pour pouvoir m'épanouir. Hey, on recherche nos propres intérêts, les seeker sensitive, comme on dit en anglais, là, hein? les gens qui recherchent, ils remplacent un peu leur psy par le pasteur ou leur coach par l'Église. Mais l'Église, c'est un lieu où on vient vivre, se soumettre à Dieu, indépendamment de nos sentiments, indépendamment de nos émotions, qu'on vient soumettre à Dieu. L'Église nous dit, comment est-ce qu'on va s'épanouir et comment est-ce qu'on va grandir? C'est deuxième, ça, comme but. C'est en marchant, en suivant des chemins droits, en suivant les chemins de la parole. Si vous chantez faux, là, mettez-vous à côté du piano. Chantez avec le piano. Vous ne ferez pas fausser le piano, mais le piano risque de corriger vos fausses notes. Hein? Alors, c'est comme ça. Nous avons la vérité. On marche selon la vérité. Et c'est comme ça que nos voix se corrigent. Il y a quelque chose de très populaire aujourd'hui qu'on appelle le counseling, qui est une sorte de sous-produit de la psychologie avec un couvert chrétien. Bon, tout n'est pas mauvais là-dedans. Et dans la mesure où on ne commence pas à parler de guérison, parce qu'on n'est pas malade, on n'a pas besoin de guérison, on n'est pas malade, on est mort. On a besoin de résurrection. Vous voyez? Et c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre-là. Et c'est l'œuvre, effectivement, des bergers que de suivre les brebis là-dedans. Et une personne ne peut pas aspirer à la glorification avant le temps de la gloire, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut apprendre à vivre avec nos travers, avec nos combats, avec la variété et la succession des saisons dans nos vies. C'est le projet de Dieu. Il me semble que j'ai sauté un point. Non, ça va, c'est correct? Mon temps est fini? C'est le projet de Dieu en envoyant le Christ pour bâtir son Église. Une Église, vous savez, c'est rien d'autre que cela, puis en même temps, c'est tout ça. Tout ce qui n'est pas colonne et appui de la vérité n'a pas le droit de s'appeler Église. Même si les cérémonies sont très belles. Moi, je garde un souvenir de mon enfance. J'ai eu des parents, vous savez, absolument extraordinaires. Et bien sûr, comme tout bon petit Québécois, j'étais catholique. En fait, je devais être le prêtre de la famille, moi. Mais j'avais plus d'ambition que ça, je voulais être pape. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ma mère disait, si tu fais un bedo, ça va déjà être beau. Mes parents allaient à l'église, on allait avec eux autres, n'est-ce pas? Puis il y avait un paquet de cérémonies dans l'église de notre enfance. Hein. Et ma mère s'appelait Imelda, ce que mon père n'a jamais réussi à prononcer. Il l'appelait Melda, puis des fois Dan. Puis à l'époque, il y avait la bière Dan. Alors on ne savait pas trop quoi distinguer. Enfin. Alors il y allait à l'église, là, il y avait les belles cérémonies, puis il revenait à la maison, puis là, mon père disait, Melda, c'était-tu beau, hein? Et que c'était beau, hein? C'est vrai que c'était beau. Mais au niveau de la nourriture spirituelle, c'était cheap, excusez-moi l'expression, c'était pauvre, c'était ultra-diète. Il manque une page quelque part, mais en tout cas, ça va aller pareil. Hein? Ça ne vous embête pas si on saute une page, non? Qu'est-ce que la vérité? Demanda Pilate. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Parole sérieuse, ça. Personne n'avait échappé au jugement. Il n'y aura personne dans un no man's land. Qu'on soit vivant ou mort, on va passer par le jugement. On aura une plaidoirie à apporter devant notre Dieu et Créateur, devant lequel nous sommes redevables. Vous savez, il y a un très beau mot dans Romains 1, verset 20. Qui nous dit « Les hommes sont inexcusables, sans excuse. » Le mot est encore plus beau dans le grec, « anapologetus ». Dedans, vous avez le mot « apologie ».« Ana », il n'y aura aucune apologie à présenter devant Dieu, aucune apologétique, aucune plaidoirie à présenter devant Dieu pour ne pas s'être converti. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, ça veut dire qu'il revient, hein? Et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il est venu, hein, le temps. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les forts. On s'étonne de ce que les gens peuvent croire. Mais je n'ai pas de mots pour décrire ce que les gens peuvent croire, mais ne crois pas à l'Évangile. Va pas en n'importe quel discours, mais ne crois pas à l'Évangile. Rien ne vaut sous le soleil, bien-aimé. L'apôtre Paul de dire dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. » Qui cherche la parole? Personne. Mais il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Les Juifs voulaient avoir des miracles, du spectaculaire, les Juifs, les Grecs voulaient se gargariser avec des grandes philosophies. Personne ne recherchait la parole de Dieu. Nous prêchons Christ, dit-il. Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En Jean chapitre 17, verset 17, hein, ta parole est la vérité, sanctifie-la par ta vérité. Dieu nous a créés. Dieu nous a interprétés. Dieu nous a donné un sens. Et notre sens, on le trouve effectivement dans sa parole. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Que devons-nous faire? Comment devons-nous vivre? Quelles devraient être nos mœurs? Tout est là. Dieu nous a créés avec le mode d'emploi. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser à nous-mêmes, mais pour nous introduire dans la communauté de l'Alliance et éventuellement au ciel. Nous sommes à cœur de semaine, vous savez, exposés à un monde prédateur, à un monde agressant. Comme c'est bon de pouvoir se rassembler en Église, notre véritable citoyenneté. De se retrouver dans la maisonnée. Et l'ennemi de nos âmes va toujours tout faire pour empêcher que ça se fasse et que ça s'accomplisse. Vous savez pourquoi? Et ce n'est pas une tactique nouvelle. Hein? Si vous lisez le livre de Daniel, premier chapitre, par exemple, là, lorsque Nebuchadnezzar déporte des Juifs à Babylone, et il va aller chercher la crème. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Hein, il prend la crème des Juifs et il s'est dit, on va faire du monde avec. au vrai sens du mot, là, des gens, faire du monde, dans le monde. Hein, il y avait des belles tactiques. D'abord, les isoler. Il les prend, puis il les isole du groupe. Il les sort du reste du peuple. Il les enlève, là, du four chaud, hein, spirituel de la dévotion du peuple. Ensuite, il se dit, on va les enseigner dans tout le savoir des Babyloniens. On n'est pas contre la vertu, on n'est pas contre la connaissance. Hein? Ça peut être dangereux, par exemple. Alors là, il leur enseigne la langue des Chaldéens, n'est-ce pas, toutes les légendes, les mythes chaldéens, et encore. Et après ça, il les amène progressivement, il veut les amener progressivement à compromettre avec la nourriture sacrifiée aux idoles, hein, la nourriture que mangeaient les grands de Nebuchadnezzar. Et pour être sûr qu'il ne manquera pas son coup, il veut semer la confusion. Il change leur nom, il leur donne des noms babyloniens. Des noms qui commencent, des noms qui ont toujours le mot « Dieu » dedans. Mais des noms de Dieu babyloniens. Daniel, Belshazzar, hein? Anania. Oui, des noms qui ont le nom de Dieu dedans. Et à cœur de jour, ils se font appeler comme cela. À force de te faire appeler comme ça, tu penses que t'es ça. T'sais? C'est subtil, hein, mais c'est vrai. L'ennemi fait encore la même chose. Le mot « apostasie » qui vient de « apoistama », il veut dire « abandon, désertion ». Rébellion, il y a des étapes à cela. John Owen, qu'on a appelé le théologien de la Réforme, parlait des différentes étapes. Il dit d'abord, il y a les faux prophètes qui s'élèvent. Hein? J'en ai parlé dans Matthieu 24, 2 Pierre 2. Des faux prophètes qui s'élèvent. Un faux prophète, ça prêche des faussetés. Il peut y avoir une bonne partie de vérité, mais assez de fausseté pour être sûr que la route est faussée. Deuxièmement, les loups pénètrent dans l'Église pour dévorer le troupeau. Acte 20, 28. Troisièmement, les chrétiens deviennent froids et ne supportent plus la saine doctrine. Il y a un patron également qu'on voit dans les lettres aux sept églises de l'Apocalypse. Ça va de la résistance avec Smyrne et Philadelphie au compromis avec Pergame et Thyatire et Éphèse au dérapage complet avec Sardes et la Odyssée. Alors, on voit la pente descendante. Une reconnaissance atténuée du caractère normatif de l'Écriture d'abord, une ignorance de la doctrine biblique, il reste une seule chose, l'amour du monde, par la suite. L'autosatisfaction. Tu es riche, tu n'as besoin de rien. Plaisir, mon collègue James, pasteur Pelletier, ici, Irénée de Lyon, deuxième siècle, disait: l'erreur se part toujours d'habits magnifiques pour avoir l'air plus vrai que la vérité. Vous savez, le relativisme ou la relativisation de la gravité de l'erreur, c'est la première étape vers l'apostasie. Oh, pas grave, une petite doctrine. Hein, commence comme cela. La relativisation de la gravité de l'erreur est la première étape vers l'apostasie. J'ai lu quelque part qu'un arbre de la famille des Taxus aux Indes, on n'en a pas chez nous, là. Un arbre de famille des Taxus aux Indes produit du fruit la première année de sa maturité, des feuilles la deuxième année et du poison la troisième année. C'est intéressant. Danger qu'il en soit ainsi pour nos vies chrétiennes. L'importance de rester bien branché sur la parole, sur une église qui prêche la parole. Gare à l'auto-séduction, l'auto-mensonge. On est bon pour s'en compter des belles à soi-même. On n'a pas besoin des autres. Hein? On est les meilleurs. Romains 1 nous parle du danger de garder la vérité captive. Parce qu'on l'a, la vérité, même les inconvertis l'ont, la vérité. Ils essayent de la garder captive. Ils essayent de faire taire ce qu'ils savent si bien, ce qu'ils ne veulent pas entendre. Puisse l'Église réformée baptiste de Nantes demeurer fidèle à son appel. Et vous savez, je rends grâce à Dieu pour mon frère Marcel, frère Gervais, mon frère René et d'autres qui sont vraiment des amoureux de la parole, qui tiennent mordicus à une rectitude de la parole, qui ne veulent rien d'autre que la parole et la parole seule. Que le Seigneur puisse abondamment vous bénir dans la poursuite de votre mission que le Seigneur vous a confiée. Rappelez-vous, vous êtes une station de la vérité ici. Amen. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, nous ne cessons de nous émerveiller de ce trésor que nous transportons dans les pauvres vases de terre que nous sommes. Il nous a été confié un message de salut, un message unique de salut, parce que si tous les chemins mènent à Rome, ils ne mènent pas tous au ciel. Il n'y en a qu'un seul. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », de dire le Christ Jésus. Nous te remercions pour cette œuvre pleine et complète, entière et suffisante que le Christ a accomplie. Nous voulons entendre à nouveau, Seigneur, l'écho des paroles en croix avant le souffle final, avant l'agonie finale, où il dit « Tout est accompli ». Le salut a été pleinement accompli. Il est là pour être reçu dans la foi. Il est là pour qu'on vienne effectivement au Christ, pour s'abandonner à lui, qu'il nous impute, qu'il mette à notre compte sa justice et qu'il prenne nos péchés et il les a portés lui-même à la croix pour ceux qui se confient en lui par la foi. Quel message, Seigneur! Quel message et quelle vie également se dégage de ta parole, parce qu'elle n'est pas lettre morte, elle est parole vivante. Elle transforme les cœurs, non seulement elle informe, mais elle transforme les cœurs et les vies. Elle nous transforme progressivement en l'image du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous entrions finalement dans la gloire. Seigneur, nous te prions encore une fois pour cette assemblée, nous te remercions pour la route parcourue, pour toutes les leçons apprises, et nous te remercions pour tout ce que tu en réserves également pour eux. Je te prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur ce corps, pour l'unité, que tout le monde soit sur la même page, regarde dans la même direction. Notre Dieu ne permet pas aux zizanions, à la zizanie de s'installer. Donne à chacun un désir très grand de voir l'avancement de ton règne, notre Dieu, et de considérer que nous sommes des serviteurs et non pas des maîtres. Nous sommes là en toute humilité, Seigneur, pour servir selon ce que tu nous demandes de faire. Non pas pour choisir nos propres services, mais pour servir là où nous voyons un besoin. Et faire ainsi avancer ton règne. Merci de nous faire ainsi co-ouvriers avec toi. Tu n'as tellement pas besoin de nous autres. Mais dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, comme un bon père qui aime travailler avec ses enfants, tu nous fais participer. Tu nous donnes voix au chapitre, Seigneur. On te remercie, on te rend grâce. Au nom précieux du Christ Jésus. Amen. Amen.